prendre ma Bible, parce que vu qu'il faut que je prêche, ça sera mieux avec la Bible. Mais avant de prêcher, ben voilà, on veut quand même vous partager un peu ce que nous vivons au Sénégal et ce pourquoi on est parti au Sénégal. Mais avant de vous partager un peu sur les projets dans lesquels on est impliqué, ben je vous propose de vous-même partir au Sénégal. Ah, la caméra est là. Alors, il faudrait juste remettre en arrière et puis remettre le son, alors. Donc, c'était un faux départ. Je vous invite à partir au Sénégal avec nous. C'est parti. Tu peux monter un peu le son.
Bienvenue en Afrique.
T'as des problèmes de son ou bien? Ouais, c'est mieux.
Tu sais, la musique, c'est la vie, quoi. C'est ma vie. Je dois mourir la musique.
Vous avez pu avoir un petit aperçu du Sénégal d'un point de vue un peu touristique. C'est pas moi qui fais cette vidéo, c'est un artiste biennois qui s'appelle Sirou, qui est très doué, qui fait des voyages et puis qui fait des petites vidéos comme ça. Et je trouve que pour présenter un peu rien que le pays du Sénégal, ça illustre bien en fait le pays. Alors voilà, maintenant ça fait depuis le mois d'octobre l'année passée que nous sommes arrivés au Sénégal pour s'inscrire dans un projet qui est soutenu par le SME. Et qui est une association qui s'appelle Perspective Sénégal. L'objectif de l'association, c'était d'aider les enfants des rues, et particulièrement les enfants talibés, qui ont souhaité quitter les Daras. Un talibé, c'est un jeune qui est envoyé par sa famille auprès d'un marabout pour être formé et instruit dans l'islam. Et ces jeunes, parfois, sont maltraités. Alors, c'est pas toutes les Daras et pas tous les marabouts qui maltraitent les jeunes qui sont accueillis, mais parfois, ça arrive. Et parce que, en fait, ces enfants doivent, selon le Coran, selon l'islam, il y a les cinq piliers de l'islam, qui sont les... l'aumône aussi, la prière, qui sont le fait de faire le ramadan, le fait d'aller à la Mecque. Donc il y a ce pilier de l'aumône, où les gens doivent donner de l'argent. Et donc ces enfants sont aussi encouragés, à côté de l'étude du Coran, à aller dans la rue et à faire l'aumône pour pouvoir ramener de l'argent. Parce que les parents donc, confient les enfants aux marabouts, mais ils donnent pas d'argent non plus aux marabouts pour éduquer leurs enfants. Et donc c'est quelque part les enfants eux-mêmes qui doivent pourvoir à leurs propres besoins et pourvoir aussi aux besoins du marabout. Donc ils vont dans les rues, ils font la mendicité, et puis s'il n'y a pas assez d'argent qui rentre, ça arrive qu'ils soient frappés, qu'ils soient maltraités. Et donc il y a ces enfants qui quittent, qui fuient les Daras et qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez les parents. Et donc, parce que sinon, ils retourneraient dans la Dara en question, et voilà, ça serait de nouveau le même processus qui s'abattrait sur eux. Donc, ils fuient les Daras et ils vont se réfugier dans la rue, et ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mendier, et puis essayer de survivre. Et quand il n'y a pas assez d'argent qui rentre, il faut parfois aller chaparder, voler. Donc, c'est une vie de misère en fait qu'ils ont dans la rue, une vie difficile. Il y a aussi de la violence, où il y a aussi de la drogue et tout un tas de choses. Et donc Perspective Sénégal, il y a eu ce désir de s'impliquer avec ces enfants des rues et leur permettre d'avoir une éducation, d'avoir un toit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a commencé tout petit, ça a commencé avec un foyer de jour, et puis c'est Anis qui va nous partager un peu ce qu'il en est du foyer de jour. Si, il y a des photos. Attendez, ouais, excuse-moi. J'ai rajouté des photos, c'est pour ça. Du coup, ça perturbe. Voilà, c'était juste pour vous montrer le Sénégal. Donc, on est ici au Sénégal, c'est ça. C'est l'Afrique de l'Ouest, vous reconnaissez? Oui, à peu près. Donc, c'est la bosse, là, puis ça continue comme ça, l'attaque. Donc, c'est l'Afrique de l'Ouest, et puis, c'est vraiment la pointe ouest de l'Afrique. Et puis... Ouh là là, je n'avais pas fait ça comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, et puis là, on se retrouve, nous, dans cette région de Dakar-Thiès. Et il faut savoir que cette région, en fait, regroupe à peu près 35% de la population du Sénégal. Donc c'est assez petit, hein, c'est juste ça. Et donc Dakar, c'est la capitale. Nous habitons sur Thiès. Et puis le centre est à Denne, juste à côté. Ah, ça va être fatigant, hein. c'est pas grave, ça va bien. Donc Denne est ici, et puis donc Dakar, la capitale est là, et puis nous, on habite à Thiès, qui est à peu près ici. Voilà, maintenant, le foyer de jour, il est sur Kermassar, donc dans la banlieue de Dakar, ici exactement. Et voilà, c'est Annelise qui va nous partager sur le foyer de jour de Kermassar.
Alors, le foyer de jour de Kermassar accueille des enfants... tous les matins de 8h jusqu'à midi à peu près. Donc c'est un lieu qui est ouvert aux enfants qui sont dans la rue, qui ont, comment est-ce qu'il faut dire, qui cherchent un peu de quoi faire. Donc il y a des moments où ils arrivent là et on essaye un petit peu de renseigner l'hygiène, de se laver les mains, d'éventuellement être propre sur eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de se laver aussi. Ils reçoivent aussi une petite collation, enfin, un petit déjeuner, on va dire, le ndeki. Et puis, c'est une bouillie ou alors, par d'autres moments, c'est un morceau de pain avec un genre de Nutella dedans. Et à boire aussi, pour leur permettre d'avoir au moins un repas qui soit correct. Après quoi, il y a des animations qui sont faites, soit ils chantent, soit il y a des histoires qui leur sont racontées. Le foyer de jour est tenu par deux éducateurs, animateurs plutôt. Et c'est eux qui ont vraiment le contact le plus proche avec les enfants. Il faut aussi savoir que tous les enfants parlent soit le Wolof ou le Poulard. Donc ils savent très peu de mots en français. Il y a des petites amorces d'alphabétisation, comme on peut le voir là, où on essaye de rapprendre des chiffres, des sons, des lettres, pour essayer d'un petit peu les sensibiliser au fait qu'ils pourraient choisir une autre vie, parce qu'ils réalisent bien que le fait de rester dans la rue, ça n'amène pas nécessairement un avenir très prometteur, à moins que ils partent dans le Coran et dans l'islam et qui deviennent un grand marabout. Mais comme toute chose, il y en a beaucoup qui sont là et il y en a peu qui vont devenir des grands marabouts. Après, la solution, on leur propose aussi un petit peu la parole de l'Évangile dans les histoires, dans les relations qu'on a avec eux. Et puis, c'est des enfants qui sont en recherche d'affection, mais c'est quand même, entre eux, c'est quand même assez violent et turbulent. On part aussi dehors sur une petite place pour faire du foot avec eux. Et puis là-bas, le foot, c'est quand même un sport national. C'est très important. Il y a plusieurs écoles de foot dans le pays. Et c'est aussi une manière de pouvoir monter les échelles sociales. Mais comme partout, il y en a quelques-uns qui vont être des bons footballeurs, mais il y en a beaucoup qui vont rester, ça va rester au niveau du plaisir de jouer ou une envie qui ne sera jamais vraiment assouvie. Voilà.
Non, ça, je te le laisse. Mais c'est bon, je te le reprends. Un autre aspect du foyer de jour, de Perspective Sénégal, c'est le centre d'accueil. Non, c'est bon, je vais faire. C'est le centre d'accueil, donc le centre d'accueil qui se trouve à Déni Biram Dao, donc à peu près une trentaine de kilomètres de Dakar et du foyer de jour. Donc là, les enfants sont accueillis au centre, ils peuvent être logés, ils sont scolarisés. Pour ceux qui sont en âge scolaire, ils reçoivent la nourriture, et puis on essaye de recréer pour eux quelque part une espèce de foyer familial pour leur permettre de s'épanouir, de grandir. Et donc il y a toute une structure qui est en place pour cela. Et ils ont aussi la possibilité de pouvoir cultiver un petit peu on a un grand terrain. Et donc du coup, ils ont ces possibilités d'avoir des occupations. Et de pouvoir quelque part se construire et puis essayer de bâtir un avenir. Et puis l'objectif du centre, c'est de permettre à ces jeunes vraiment de pouvoir se projeter aussi dans l'avenir et puis leur permettre d'acquérir ce qui est nécessaire pour leur développement, quoi. Donc c'est aussi les initiations à l'informatique et puis l'alphabétisation aussi pour ceux qui ne sont plus en âge scolaire. Mais qui ont eu des lacunes à l'école. Donc on leur permet de pouvoir acquérir au moins les bases du français et puis au moins des mathématiques, qui sont quand même bien nécessaires pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors au mois de février, on a eu la chance d'avoir nos deux filles aînées, nos deux filles grandes, compliqué de dire, Donc nos deux grandes filles qui sont venues nous visiter au fin janvier, début février. Et puis j'invite Héloïse à nous partager quelques mots de son ressenti, de ce qu'elle a vécu là-bas, aussi au sein du centre d'accueil.
Bonjour. Ah, ok, pardon. Ok. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, on n'a pas pu y passer beaucoup de temps parce qu'on était là pour un court séjour. Mais du coup, on a eu l'occasion vraiment de pouvoir faire deux, trois activités avec les jeunes. Et c'est vraiment super chouette. On sentait vraiment qu'il y avait cette envie de faire les choses avec les autres, cette envie d'être ensemble. Il y avait aussi beaucoup de respect entre eux. Et c'est vrai que ça contrastait beaucoup avec ce foyer deux jours à Dakar, à Cœur Massar. Et c'est vrai qu'on voyait vraiment cette différence entre ces enfants qui étaient encore dans cette rue et puis avec beaucoup de violence, puis tout d'un coup d'être dans ce foyer, dans une maison où ils étaient accueillis, où ils étaient aimés, ils étaient choyés. On sentait qu'il y avait beaucoup, c'était plus apaisé malgré un parcours de vie qui était vraiment pas évident. On sentait vraiment beaucoup d'amour et d'entraide entre eux aussi surtout. On ressentait que les grands étaient là aussi pour soutenir les plus jeunes, ceux qui venaient d'arriver, les rassurer. Et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas moi, m'a beaucoup touchée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager.
Merci. Voilà, donc ils ont la possibilité de pouvoir grandir. Et on accueille des enfants qui ont à partir de 6-7 ans, parce que des enfants qui se retrouvent dans la rue, ils peuvent avoir déjà ces âges-là de 4, 5, 6 ans. Et puis jusqu'à 18, 19 ans, ça dépend un peu aussi de leur suite des études et puis de ce qu'ils veulent faire comme orientation après. Donc il y a c'est tout cela en fait qui sont, il y a toute une tranche très 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 diverse en fait de jeunes qui sont accueillis au sein du centre. Dans les activités, il y a aussi le fait de faire sa lessive. Parce qu'au Sénégal, c'est comme ça, hein, je veux dire, quand on est dans toutes les familles, chacun fait sa propre lessive, donc ils font aussi leur lessive. Après, pour ce qui est des draps et tout ça, il y a quand même des machines à laver, hein, je vous rassure. Et le sport, toujours. Voilà un peu ce que, en bref, hein, ce qu'on peut vous partager au niveau du centre d'accueil. Et puis, un autre aspect, c'est une école primaire qu'on a du côté de Ziguinchor, donc au sud du Sénégal, qui a été créée en 2015 et qui maintenant fonctionne avec 205 élèves. Cette année, il y avait 205 élèves qui étaient à l'école primaire de Ziguinchor. C'est une école qui se retrouve dans un quartier défavorisé du sud de Ziguinchor, dans Casamance. Un quartier défavorisé où il y a beaucoup de personnes qui ont fui en fait les violences qu'il y avait en Casamance pendant une période. Il y avait toute une guerre civile, si on veut, en Casamance. Il y avait des souhaits d'indépendance de la Casamance, et donc la région était très troublée. Et il y a pas mal de familles qui sont réfugiées dans ce quartier de l'Indiane à Ziguinchor, qui est la grande ville de Casamance. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de familles défavorisées et donc n'ont pas forcément des moyens importants pour pouvoir être scolarisés. Et donc, au niveau de l'école, il y a toute une tranche des enfants qui sont accueillis, qui ne payent pas de scolarité ou qui ont un prix très très bas pour pouvoir être scolarisés. Et puis, notre grande fierté au sein de l'école, c'est de voir en fait qu'il y a vraiment un beau taux de réussite à la fin de l'école primaire. Il y a un diplôme un diplôme qui est discerné au Sénégal pour sanctionner la fin du cursus primaire. Et l'année passée, on avait 100% de réussite. Cette année, on est descendu à 85%. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 élèves qui n'ont pas réussi. Mais voilà, on est quand même fiers de voir que ce qui est apporté, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et après, on voit aussi qu'ils réussissent bien au collège. Et ça, c'est vraiment réjouissant pour nous de voir qu'il y a cette possibilité pour eux de, quelque part, construire un avenir pour eux et avec eux. Donc ça, c'est le troisième aspect de ce qui est fait au sein de Perspective Sénégal, au Sénégal, bien sûr. Et puis, on a encore un autre aspect, qui est le centre de formation de Denubi Ramdao, donc centre de formation professionnelle, et c'est ce pourquoi, en fait, on est parti au Sénégal, pour développer le côté formation professionnelle. Donc si... Ah, oh, pardon, je ne voulais pas lancer ça tout de suite. En fait, il y avait au sein du centre à Denubi Ramdao, là où sont accueillis les enfants, donc dans la maison d'accueil, il y avait des ateliers qui ont été créés il y a déjà pas mal d'années en arrière, qui étaient un peu des ateliers d'occupation en fait pour eux et qui leur permettaient de pouvoir s'exercer un peu au niveau de la menuiserie, de la soudure et puis aussi de la cordonnerie. Et donc on a le désir de pouvoir développer ces ateliers pour leur permettre d'avoir des formations qui soient aussi reconnues par l'État sénégalais. Donc c'est le pourquoi on est envoyé par le SME au sein de ce centre à Denubi Ramdao pour développer tout le côté formation professionnelle. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo qu'on a faite C'est un formateur en menuiserie qui travaille donc avec les jeunes depuis une année maintenant, et puis qui a donc a rejoint le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune en fait qui a été lui-même accueilli dans le centre il y a bien des années en arrière, et qui maintenant est revenu pour être formateur à son tour. Alors je vous propose d'écouter son témoignage. Et si vous avez du mal à entendre, ben il y a des sous-titres qui peuvent vous aider.
Perspective Sénégal, que je suis là aujourd'hui. Eux aussi, ils m'ont aidé jusqu'à là. Donc, ce que je fais aussi pour les enfants, c'est de les aider aussi, de donner ce que j'ai appris, de les transmettre aussi. Puis, pour qu'un jour, eux aussi puissent devenir des personnes qui vont aider la famille et aider les enfants de la vie. C'est ça qu'on fait pour le son.
Voilà. Donc ce jeune, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ils étaient trois frères, hein, il le dit dans son témoignage. Ils étaient trois frères et donc lui, il n'avait pas eu beaucoup d'alphabétisation, il n'avait pas beaucoup eu de possibilité d'être à l'école. Par contre, il a un petit frère qui s'appelle Danny et ce petit frère, il le dit dans son témoignage, maintenant il est en classe de première, il va faire sa terminale et son désir c'est de pouvoir passer son bac l'année prochaine. Et ce petit frère, il en est tellement fier parce que justement, il a cette possibilité d'avoir fait des études et de pouvoir décrocher son bac. Et c'est beau de voir cette solidarité qu'il y a entre ses frères. Et entre eux, ce petit frère Dany, ben en fait, il habite chez nous depuis une année. et on l'aide pour pouvoir justement financer sa scolarité et pouvoir voilà, avoir un avenir. Donc il se forme en comptabilité gestion et c'est un gars qui est sérieux, qui est vraiment motivé et qui vraiment en veut. Un autre reportage, c'est un reportage qui a été fait en fait au mois de mai par il y a une équipe, non, c'est pas, on ne peut pas dire une équipe, c'est une personne de la télé suisse allemande qui est venue nous visiter au Sénégal et qui venait pour justement au niveau des ateliers faire un reportage sur le travail qui est fait. Alors je vous propose de regarder son reportage, ça dure 4 minutes. Ça fait beaucoup de vidéos peut-être hein, en fait, mais ça permet d'illustrer un peu voilà, ce qui se fait. Là aussi je l'ai sous-titré, à moins que vous parliez couramment l'allemand, c'est pas mon cas, mais ça peut vous permettre de suivre ce qui se dit. Et c'est une émission qui est passée il y a 10 jours en arrière, la télé suisse allemande.
Zieh die Brillen an. Langsam runter. Kräftig drücken.
Von der Straße ins Lehrlingsatelier. Hier lernt der 14-jährige Musa das, was ihm später helfen wird, einen Job zu finden. Bis zu 10 Jugendliche pro Jahr bekommen hier eine neue Chance.
Ich habe jahrelang auf der Straße gelebt, zusammen mit meinen Freunden. Dort haben wir gebettelt und geschlafen. Eines Tages kamen dann Sozialarbeiter vorbei und haben mir geholfen, hier einen Platz zu finden. Das hat mein Leben komplett verändert.
Hergestellt werden unter anderem Metallskulpturen und Möbel. Das Ausbildungszentrum liegt rund 30 Kilometer außerhalb der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Daoudan Gom kam vor 16 Jahren hierher, als Straßenkind. Heute ist er Ausbilder.
Alle Ausbilder hier haben selbst auf der Straße gelebt. Wir wissen genau, wie sich das anfühlt, wie hart das Leben dort ist. Da gibt es keine Zukunft. Die Kids betteln sich durch das Leben, sie haben keine Perspektive. Deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich Jugendlichen wie Musa jetzt hier mit meinem Wissen helfen kann. Das macht mich stolz.
Die Ausbildung. Aber auch Unterkunft und Sicherheit. Das alles ist neu für Musa und die anderen.
Hier erfahre ich zum ersten Mal, was es heißt, ein normales Leben zu führen. Ich erlerne einen Beruf. Ich esse und schlafe regelmäßig. Früher auf der Straße wurde ich von den Leuten mit den Füßen getreten.
Hier sollen alle die Skills bekommen, die es ihnen ermöglichen, nach der Ausbildung ins Berufsleben einzusteigen. Eine Möglichkeit, die der Staat ihnen nicht bietet. Die Schuhmacherei. Ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt. Rund die Hälfte der Jugendlichen hat sich für dieses in Senegal gefragte Gewerbe entschieden.
Beim Schneiden musst du sehr genau arbeiten. Sei vorsichtig, wie du schneidest. Besonders bei den geraden Teilen.
Jahrelang hat sich der 16-jährige Mohammed auf der Straße durchgeschlagen. Seine Hände mussten erst mal lernen, feine Arbeiten zu verrichten.
Das hier ist eine Chance, nicht nur für mich. Wenn ich eines Tages dank der Ausbildung hier eine Arbeit finde, kann ich auch meine Familie unterstützen. Dann kann ich ihnen sagen, schaut hier, ich habe es geschafft.
Die im Atelier von den Kids hergestellten Schuhe werden unter anderem auf Märkten verkauft. Fast alle hier träumen davon, eines Tages einmal einen kleinen Laden mit ihren Produkten zu eröffnen. Oder aber, wie Ausbilder Chibi Kamara, das, was sie im Zentrum gelernt haben, später an andere weiterzugeben.
Ich möchte für die Jungs ein Vorbild sein, ihnen zeigen, dass man es schaffen kann. Ich selbst war ganz unten, hatte ein Leben auf der Straße. Und heute bin ich für Sie ein positives Beispiel. Ich zeige Ihnen, hey, das könnt ihr auch schaffen.
Finanziert wird die Berufsausbildung für Straßenkinder vom Verein Perspektiv Senegal und der Schweizer Entwicklungsorganisation SME.
Voilà, ça vous donne un peu un aperçu de ce qui se fait au sein du centre de formation professionnelle qu'on a à Aden. Et ce qui est très intéressant et très encourageant, c'est de voir qu'en fait, que tous les formateurs qu'on a, les trois formateurs qui sont là, sont eux-mêmes issus de la rue, ont passé par le centre et ont ce même désir, ce même cœur que de partager en fait ce qu'ils ont reçu et de transmettre leur connaissance et aussi de transmettre leur foi au travers avec les jeunes avec lesquels ils sont en responsabilité. Donc on est très encouragés, très motivés de voir en fait ce qui se fait et puis de voir aussi cet enthousiasme qu'ils ont pour transmettre et donner. Voilà un peu. On a combien de temps encore ? 11h10 ? Un quart d'heure ? On va arrêter là. Est-ce que tu peux me passer directement à la dia qui il y a marqué Nyokobok ? Nyokobok. C'est un peu plus loin. Ça doit être la dernière, je pense, ou l'avant-dernière. Ouais, c'est ça. Le thème de mon message, en fait, c'est Nyokobok. Nyokobok, ça veut dire on est ensemble. En fait, en Wolof, si on fait quelque chose pour vous, bah vous allez dire merci. Et on va répondre, en Suisse, on répond service. C'est juste, je ne me trompe pas. En France, on dit de rien, ici, on dit service. À Lausanne, peut-être que c'est différent, je ne sais pas. Non, c'est service aussi. On dit les deux. Ah, voilà. Il y a un peu une influence française quand même ici. À Tramelan, c'est service. Il n'y a pas possibilité de dire autre chose. C'est comme ça. Donc, on s'adapte. Alors, au Sénégal, on dit Nyokobok, ce qui veut dire on est ensemble. Et je trouve juste magnifique cette expression, en fait, où pour remercier quelqu'un, ben voilà, il y a cela. Et sa réponse, en fait, c'est de dire mais voilà, c'est normal quelque part parce qu'on est ensemble et on veut faire ensemble les choses. Et je trouve que c'est une belle image aussi de ce que peut être l'Église, de pouvoir être ensemble, de pouvoir être réunis ensemble et de pouvoir œuvrer ensemble à une même tâche, à un même objectif. Et puis c'est aussi un peu ce qu'on veut faire et vivre au sein du centre, de pouvoir transmettre à ces jeunes qu'on est ensemble et qu'on veut leur bien, qu'on veut les conduire plus loin et qu'on veut les amener à pouvoir avoir un avenir. Alors, je vous invite à un petit exercice linguistique. Ça va aller ? Ouais. Donc, ici, on va dire merci. 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 Et puis ici, on va dire service. Bon, ça, c'était facile. Mais maintenant, on va le faire en Wolof. Donc ici, vous allez dire Djeredief. 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 Je vous le répète. Djeredief. Djeredief. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre un peu plus d'entrain, s'il vous plaît ? Djeredief ! Voilà. Et puis ici, vous allez répondre Nyokobok. Pardon, c'est un peu embrouillon, là. Nyokobok. Nyokobok. Alors. Nyokobok, ça marche mieux que Djeredief, apparemment, hein. Ils sont plus nombreux. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc, Djeredief, et on répond Nyokobok. On est ensemble. Et pour illustrer cela, en fait, alors, justement, j'ai pris cette photo, parce que, bon, on ne le voit pas très bien, hein, mais en fait, ici, donc c'est une pirogue, si ça, on la voit bien, et en fait, il y a tout un filet, ici, qui sont en train de hisser dans le bateau pour repartir à la pêche. Et là, il y a une dizaine de personnes qui sont ensemble pour tirer le filet dans la pirogue. Et donc, il y a toute une équipe qui est là. Et pendant qu'ils font ça, ils font ça en chantant. Donc, c'est-à-dire, ils chantent. Et au rythme du chant, ils tirent le filet. Et petit à petit, le filet rentre dans la pirogue. Et c'est des filets qui peuvent faire des centaines de mètres de long. Donc ça dure longtemps pour hisser le filet qui est sur le sable ici, pour le faire rentrer dans la pirogue avant de pouvoir ensuite prendre la mer le soir. Et il y a tout ce travail qui est fait où ils sont ensemble pour faire cela et c'est rythmé par le chant. Voilà, Nyokobok, on est ensemble. Et quelque part, l'Église, c'est aussi cela, c'est de pouvoir être ensemble. On est ensemble pour tirer le filet, pour ensuite aller de l'avant et entrer dans l'œuvre que le Seigneur place devant nous. Alors pour illustrer ça, je vous propose de regarder dans Néhémie, le livre de Néhémie, un livre passionnant, où on voit tout un peuple qui se met en route ensemble pour reconstruire une muraille. On a Néhémie qui était à la cour du roi Artaxerxès. C'est un mot très dur pour moi à prononcer, c'est très compliqué. Ça s'embrouille dans ma bouche tout le temps. Artaxerxès, à peu près. Vous voyez de qui je parle ? Oui, hein, le roi de l'empire syrien, non pas syrien, assyrien, et puis qui est à Suse, donc actuellement c'est en Iran, c'est juste, hein, en Iran, donc c'est l'ancienne capitale, Suse. Et Néhémie est échanson auprès du roi, et il reçoit des nouvelles de Jérusalem et des Juifs qui habitent à Jérusalem. Et voilà, il apprend que les murailles sont en ruine, qu'il y a des brèches dans les murailles. Et ce qu'il va faire, c'est prendre un temps pour prier, pour méditer, avant de se présenter devant le roi. Voilà, en trois mots. Hein. Et ensuite, le roi va être touché aussi du témoignage que lui apporte Néhémie et va l'autoriser à rentrer à Jérusalem pour pouvoir remettre en place ses murailles, redonner un visage en fait à Jérusalem. Et donc il y a dans tout ce livre, on voit cet enthousiasme qui va commencer à s'emparer du peuple qui habite à Jérusalem et qui sont aussi aux alentours de Jérusalem et qui vont se mettre en marche pour reconstruire la muraille, pour reboucher les brèches, pour rebâtir les portes de Jérusalem. Et ils le font ensemble. Et au chapitre 3 de Néhémie, toute une partie du chapitre, on pourrait se dire, ouais, bon, voilà, c'est des listes de noms. Mais ce qui est très intéressant de voir, en fait, c'est que ce sont des personnes qui n'étaient pas des maçons, qui n'étaient pas des tailleurs de pierre, c'était pas des menuisiers, c'était pas des charpentiers, forcément. Mais c'est des personnes qui se mettent ensemble pour rebâtir la muraille. Et on voit qu'il y a des orfèvres, donc des personnes qui font un travail minutieux, qui vont se mettre en marche pour bâtir la muraille. Il y a un homme avec ses filles qui va se lever aussi pour bâtir la muraille. Et chacun prend sa part à l'ouvrage. Et on voit à peu près une cinquantaine de personnes, ou plutôt de groupes de personnes, qui se mettent en marche, qui se lèvent en fait pour rebâtir cette muraille de Jérusalem et redonner des portes à Jérusalem et permettre à Jérusalem de retrouver sa sécurité. Parce que le but de reconstruire la muraille, c'était pas de sauver un monument historique, c'était pas mais c'était vraiment de mettre Jérusalem en sécurité et de permettre à Jérusalem de retrouver sa sécurité. Et il y a tout cela qui se met en route. Jérusalem était un champ de ruines, mais petit à petit, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils se mettent ensemble pour reconstruire, Jérusalem va sortir, enfin les murailles de Jérusalem vont sortir de terre et vont retrouver une allure de muraille. Ce qui est très intéressant, c'est que 2500 ans après cela, de nos jours, il y a encore des parties de la muraille de Jérusalem qui sont en fait ces anciennes constructions que Néhémie avait pu relever avec son équipe. Quelque chose de passionnant aussi dans tout cela, c'est ce que je vous partageais, c'est que Néhémie était échanson à la cour du roi. C'était pas un Vauban, c'était un architecte militaire qui... c'était un homme ordinaire. Bon, échanson, c'était quand même pas rien. Mais voilà, c'était pas du tout dans ses cordes que de faire de l'architecture ou bien de mettre en route toute une équipe pour reconstruire cette muraille. Mais c'est un homme qui est touché par Dieu, touché par ce fardeau de dire, mais je veux reconstruire cette muraille. Et je veux, parce qu'il y a ce fardeau que Dieu pose sur son cœur, et il se met en marche, et il va à la rencontre du roi pour cela. Et quand Néhémie arrive à Jérusalem, il n'est pas en train d'échafauder tout un plan. Ce qu'il va faire, pendant plusieurs jours, il va faire le tour de Jérusalem. Il va prendre le temps de voir les dégâts, de voir la situation. Il va prendre le temps de se placer devant Dieu pour évaluer la situation et pour savoir par où attaquer les choses. Et ça nous montre aussi cette nécessité d'être dans ce dialogue quelque part avec Dieu pour l'Église. Parce qu'en tant qu'Église, on a besoin de pouvoir se poser et de pouvoir se mettre ensemble pour aller de l'avant. Dans toutes ces périodes de Covid qu'on a traversées, qu'on a traversées aussi avec vous, même si on l'a vécu depuis le Sénégal, il y a toutes ces difficultés où il faut avoir de la distance entre les personnes, où il faut passer par d'autres moyens pour pouvoir se réunir. Et quelque part, quand nous, on est revenus au mois de juillet, ce qu'on avait envie, c'est des personnes qu'on retrouvait, c'était des amis qu'on retrouvait, et on a envie de se prendre dans les bras. Et puis, avec ce Covid, il y a cette distance qui est là, et on ne sait plus comment réagir les uns avec les autres. On est là, est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que je ne peux pas t'embrasser, t'es vacciné, t'es pas vacciné, t'as eu le Covid, t'as pas eu le Covid. Et il y a tous ces questionnements qui sont là et qui cassent quelque part la relation. Et on aspire, en tout cas moi j'aspire, à pouvoir revenir dans ce être ensemble, à pouvoir être de nouveau, vivre quelque chose où on peut retrouver quelque part nos valeurs et notre joie de pouvoir partager les uns avec les autres. Je suppose que c'est aussi un peu votre aspiration, votre soif. Et en tant qu'Église, je pense qu'on le vit aussi. Parce que les relations sont plus distendues, il y a eu toute une période où on n'a pas eu possibilité de se retrouver, on n'a pas eu possibilité de vivre des cultes ensemble. Et ce besoin, il est quand même là. Et cette aspiration, elle est là, de pouvoir être ensemble et de pouvoir faire les choses ensemble. Et c'est comme ça que l'Église se construit, c'est quand on est ensemble, quand on est unis les uns aux autres et qu'on est dans cette dynamique de se porter de l'avant avec le Seigneur, avec la vision que le Seigneur nous donne, où on peut aller et marcher ensemble. Et on voit au travers de tout ce livre de Néhémie ce désir en fait du peuple de pouvoir prendre les choses en main pour reconstruire la muraille. Dans Romains 1, versets 11 et 12, il y a ces deux versets qui disent, donc c'est Paul qui écrit à l'épître de Rome, qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas visité cette église, mais il leur écrit, il leur dit, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » J'aime cette reprise de Paul qui dit « afin que vous soyez affermis ». Mais en fait, non, pas que vous soyez affermis, mais que nous soyons encouragés ensemble. Et voilà, il y a ce désir d'être ensemble et de pouvoir ensemble construire, bâtir. Et certainement dans l'esprit de Paul, et on le voit dans d'autres épîtres, il y avait ce désir de pouvoir atteindre l'Espagne pour pouvoir aller communiquer l'Évangile en Espagne. Et son souhait, on peut supposer que c'était de pouvoir avoir quelques personnes qui étaient là à Rome pour l'accompagner en Espagne, pour pouvoir communiquer l'Évangile là-bas. Ce désir d'être ensemble, ce désir de communiquer, de transmettre pour être ensemble, avoir ce fond commun pour pouvoir aller plus loin et le transmettre plus loin. Être édifié, encouragé, affermi ensemble par la foi qui vous est commune et qui nous est commune. Un texte magnifique qui nous parle de l'Église et de cette nécessité et de son utilité pour pouvoir voir l'Évangile et le royaume de Dieu s'agrandir. Je reviens vite à Néhémie. Au chapitre 4 de Néhémie, on voit que il y a des ennemis, comme je vous disais, il n'y a pas cette muraille qui se rebâtit, c'est pas juste pour faire joli, pour un désir d'esthétique, mais c'est vraiment parce qu'il y a une utilité, une nécessité de mettre Jérusalem en sécurité. Et on voit qu'il y a de l'opposition qui se crée Ben voilà, tant que Jérusalem avait des murailles pourfendues et des portes qui avaient brûlé, il n'y avait pas trop de danger à ce qui risque de venir de Jérusalem. Mais du fait que les murailles commençaient à se monter, les ennemis qui étaient autour de Jérusalem commencent à se poser des questions. Et ils essayent de transmettre la peur aux habitants de Jérusalem. Et ils mettent une pression sur eux, et aussi sur Néhémie, pour lui communiquer une espèce de peur et faire que les travaux s'arrêtent. Et Néhémie reste ferme et il continue de bâtir. On voit dans Néhémie 4, les versets 1 et 2, « Cependant, Sambalat, Tabidja, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » Donc là aussi, on voit qu'il y a un désir d'être ensemble, non pas pour construire, mais pour aller attaquer ceux qui sont en train de reconstruire la muraille. Cette nécessité d'être ensemble, elle est aussi ressentie par les ennemis de Jérusalem et de Néhémie, en quelque sorte. Mais on voit aussi que par la suite, Néhémie et le peuple vont faire face. Et ils se laissent inspirer par Dieu. Ils vont à la fois construire et en même temps défendre la cité. La journée, ils construisent, la nuit, ils défendent, ils surveillent, ils veillent. Et il est dit même à un certain passage qu'ils étaient la truelle à la main et de l'autre, il y avait l'épée pour pouvoir se défendre. Et au fur et à mesure, la muraille se reconstruit. Au fur et à mesure, les fortifications reprennent corps. Au fur et à mesure, les portes sont de nouveau scellées dans la muraille et Jérusalem vient à être une cité en sécurité. Et au chapitre 4-3, c'est juste, au verset 3, il est dit, de chapitre 4, « Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. » Nous avons prié notre Dieu. Il y a tout cet aspect qui est là, où il y a la construction, il y a les ennemis qui attaquent, mais Néhémie sait que c'est dans la prière que les batailles se remportent. Et quand il dit « nous avons prié notre Dieu », il y a vraiment cette prise de conscience pour le peuple aussi, qu'ils font partie du peuple de Dieu et qu'il y a cette nécessité de se tourner vers Dieu pour trouver en lui ce qui est nécessaire. Et la muraille se bâtit, la muraille se reconstruit. Et puis, je vais avancer un peu plus vite. Et Néhémie 6, versets 15 et 16, il est dit... La muraille a été terminée au 25e jour du mois d'Elul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur et ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Ce qui est très intéressant dans ce passage, déjà, voilà, en 52 jours, le travail a pu être fait. Jérusalem a retrouvé sa sécurité. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que la peur a changé de camp. Ce que les ennemis d'Israël avaient voulu inculquer au peuple de Jérusalem, cette peur de les voir, eux, comme ennemis qui pouvaient fondre sur eux, maintenant, cette peur, elle a changé de camp. Parce que les ennemis de Jérusalem réalisent que c'est Dieu qui a mis tout en œuvre pour que cette muraille puisse être bâtie. Et la peur ainsi change de camp. Je crois que des fois, on se sent tout petit, on se sent vulnérable, mais on a un Dieu grand et puissant qui est avec nous. Et on a besoin d'avoir nos regards fixés sur lui. On a besoin de pouvoir trouver en lui, je dirais, ce qui est nécessaire pour aller de l'avant avec lui. Et moi, je vous encourage à ce que Dieu a déposé dans vos vies, dans vos cœurs, Alors, c'est peut-être pas un projet de partir au Sénégal pour aider une population, mais c'est peut-être tout simplement d'être auprès d'une personne de votre entourage que vous connaissez, qui est en difficulté. Être un soutien pour elle. Souvent, on peut se trouver, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que une personne qui est malade, simplement, qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui apporter ? Parfois, ce n'est pas dans les mots que la personne va pouvoir avoir du réconfort. C'est simplement dans la présence, dans le fait d'être auprès d'elle. Et de pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu pose sur nos cœurs va faire tomber nos craintes et nos peurs. Et de pouvoir se laisser inspirer par ce que Dieu place sur nos vies, par ce que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir faire en son nom, on va être encouragé. On va pouvoir être des sources d'encouragement pour les personnes avec lesquelles on est en contact, et on est aussi nous-mêmes encouragés de voir l'œuvre de Dieu qui se fait au travers de nous, auprès des personnes vers lesquelles il nous envoie. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre, de vous donner ce matin, ce « on est ensemble », ce « nyokobok », comme on le dit en Wolof, au Sénégal, ce « nyokobok » où on est ensemble, et on n'est pas tout seul. Et on a ce privilège, ce privilège d'avoir Dieu avec nous, d'avoir Christ avec nous, qui nous inspire, qui nous encourage, et qui nous dit « mais vas-y, tu es capable, je suis avec toi ». Et c'est sa promesse qu'il nous fait dans Matthieu 28, « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et on doit pouvoir s'accrocher à cette promesse parce qu'elle est vraie, parce qu'il nous l'a donnée, parce qu'il nous l'a transmise, et parce que cette promesse, elle est quelque chose de concret pour nous aujourd'hui. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous transmettre ça ce matin. Soyez bénis, encouragés, et sachez que vous êtes des sources de bénédiction là où vous êtes. Amen.